Vous écoutez
RMC. RMC.
18h-20h.
Rotten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Rotten.
19h sur RMC. Allez, c'est reparti pour la deuxième heure de Rotten Régal avec Jean-Michel Larquet. Jean-Louis Tour toujours là, bien sûr. Là, on va s'attaquer, Jean-Louis, à la Ligue 1. Oui. Maintenant, la journée qui est importante hein, pour certains clubs. On est à 3 journées de la fin. Là, c'est chaud et il y a des bons matchs.
Exactement, on va tout vous dire sur cette 36e journée de Ligue 1. On ira à l'étranger également avec deux énormes affiches. La finale de la Ligue des Champions entre City, ouais, et Chelsea. Il y a déjà le match en championnat ce week-end, on en parlera avec Julien Laurence. Et puis Barça-Atlético en Espagne. Peut-être le titre pareil, qui va jouer ce week-end. Ouais. Fred Hermel sera avec nous tout à l'heure. Et puis 32-16 pour vous inscrire pour le quiz de Rotten Régal. Ce sera tout à l'heure. Avant de lancer la journée de Ligue 1 avec nos correspondants, Jean Baumel nous rappelle, parce que c'est chaud, c'est l'avant-match de Lens-Lille, le match ce soir, 21h. Et il y a de l'ambiance autour de toi, Djibo.
Ouais, pour l'instant, enfin, c'est un petit peu calmé parce que le bus n'est pas encore parti, mais je peux vous dire qu'au moins, le chiffre, franchement, il fait un peu hallucinant. On ne sait pas exactement, mais on serait pas loin des 3 000-4 000 supporters lensois tout près de l'hôtel des 100 et or. Il y a des fumigènes de partout, des rouges, des jaunes. Forcément, on attend le moment fort où le bus va sortir pour se diriger, eh bien, à 1 km du Stade Bollaert. Hein, on n'est pas très très loin, pas loin du Louvre-Lens exactement, et on entend un petit peu l'échange. Je sais pas si vous les entendez derrière moi.
Ouais, on les entend.
Bon, pas mal de chantiers un petit peu anti-lillois, mais bon, c'est voilà, ça chambre pas mal. Et ils vont mettre une pression énorme sur les joueurs de Francaise pour faire une grosse paire face à Lille, forcément. Mais je crois que le moment où le bus va arriver, ça va être un moment vraiment assez incroyable.
Très bien. Alors, tu nous rappelles quand le bus arrive, Djibo. Ne trompe pas sur le timing.
C'est important, le bus.
La Ligue 1, on y va. C'est parti pour la 36e journée.
RMC, Rotten Régal.
Et la casquette qui sale, elle est pour moi. Elle est pour moi, cette casquette qui sale.
Le multiplex.
Dans ce multiplex, à tout moment, Jean Baumel donc peut revenir. Mais nous sommes avec ceux qui luttent toujours pour le titre, même si c'est peut-être davantage la bataille pour la troisième place qui les concerne. Bah oui. On ne sait jamais. Lille et Paris peuvent peut-être perdre des points ce week-end.
Ah bah, ils vont pas comme ça, les deux.
En tout cas, mathématiquement, c'est encore possible.
Ah, il y en a un qui croit là. J'entends.
On l'a entendu, Edouard G à Lyon. Salut Edouard.
Salut
Edouard.
Et Clément Brossard pour Monaco. Salut Clément.
Salut Jean-Louis. Salut Clément. À tous. T'y crois plus, Jérôme? Non, mais je te croyais dans la cour jusqu'au bout. Là,
je pense. J'y crois plus pour Monaco. Monaco et Lyon, j'y crois plus. Ils sont trop loin maintenant. Mais je vois pas deux équipes dégringoler, que ce soit Lille ou Paris, sachant qu'ils ont été intraitables sur les dernières journées.
Il y a quand même la course à la troisième place dont on va parler avec vous. Et puis en bas de tableau, le match de la peur. Le match qui fait trembler tout le monde. C'est entre Nantes et Bordeaux. Et on va en parler avec Xavier Grimaud. Salut Xavier.
Bien sûr.
Salut Jean-Louis. Salut, salut Jérôme. Salut capitaine. C'est le match le plus excitant de la journée, évidemment, en Nantes-Bordeaux. Quand même.
C'est le match le plus stressant, en tout cas, ça c'est sûr.
Oui.
Et notre correspondant à Bordeaux, Nicolas Paul Ortiz. Salut Nico.
Salut les gars, salut à tous.
Salut Nico.
Vous n'avez pas invité Julien Landry ce soir pour qu'il nous parle de trading?
Ah oui, je l'ai entendu, il a dit trading. Et là-bas, il a dit c'est l'accent.
Là-bas, on dit comme ça.
C'est l'accent.
Ah oui, c'est comme ça. Ouais. Vous êtes là pour faire remonter ce qui se passe dans vos régions. Là-bas, on dit trading.
Tu t'es remis, Nico, de ta soirée quand même, parce que là, c'était le folklore, le dernier match.
Ah bah, on a célébré. Moi, tu sais, j'ai pas vu beaucoup de victoires cette année, Jérôme.
Tu sais que Nico, il a même mis son but commenté sur Twitter. Tellement qu'il est fier de commenter une victoire. Il y en a tellement eu cette saison. Écoutez, les gars, ce que ça fait. Voilà, c'était magnifique. Bravo Nico. Allez, on y va messieurs. Un débat par gros club et des tours des stades pour rythmer tout ça avec des infos. On commence par Monaco. Est-ce qu'il peut y avoir un problème de digestion, Clément? Monaco qui reste donc sur cette défaite face à Lyon et qui se déplace à Reims, c'est dimanche 17h.
Oui, alors le résultat du match face à Lyon semble digéré. En tout cas, on a vu cet après-midi le capitaine Wissam Ben Yedder en conférence de presse, comme à son habitude. Alors, il n'était pas très bavard, jamais volontiers dissert Ben Yedder. Mais quand on lui a demandé si en tant que capitaine, il avait dû, plus que d'autres, peut-être remobiliser les troupes, mais elle a répondu que ce revers contre Lyon n'était pas un coup pris sur la tête. Il a même reproché à certains médias, en général même, d'en avoir un peu trop fait sur les conséquences de la défaite. Écoutez-le, c'était il y a un peu moins de 4 heures.
J'ai l'impression que cette défaite a changé beaucoup de choses. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que l'équipe se sent bien, l'équipe se sent de mieux en mieux. On est troisième, on est sur le podium, et si on gagne tous nos matchs, on restera ici.
Et sur les trois derniers matchs, donc un déplacement à Reims, une réception de Rennes et un dernier match sur la pelouse de Lens, contre ces trois-là, Monaco n'a pas réussi à s'imposer lors de la phase aller, même si, c'est vrai, c'était pas le même Monaco. Alors, il y aura également, dans quatre jours, la demi-finale de Coupe de France chez le Petit Poussé, le club cher à notre Savoyard Édouard, Rumi Valière, et Monaco pourrait tout perdre en une semaine, mais Nico Kovac, lui, voit positif. Il nous a dit cet après-midi, voilà, j'ai jamais été pessimiste, c'est pas dans ma nature, je suis au contraire quelqu'un d'assez optimiste, et à trois journées de la fin, j'ai aucune raison de changer. On est troisième, on est en demi-finale de Coupe de France. C'est une chance pour moi, pour mes joueurs, pour le club en général. Donc voilà, la défaite contre Lyon, c'est du passé. Et les Monégas sont prêts à rebondir ce dimanche au stade Auguste Delon de Reims.
Jérôme, comment tu vois les choses ?
Écoute, oui, c'est un gros coup derrière la tête quand même. Parce que même s'il y a beaucoup de jeunes et inexpérimentés du côté Monégas qui sont en train de faire une saison remarquable, et que je pense que vu l'animosité qu'il y a entre les deux clubs en plus contre Lyon, ils voulaient marquer le coup de nouveau et puis être toujours dans la course, à déjà s'assurer la place en Ligue des Champions, parce que s'ils avaient gagné même match nul, c'était quasiment fait, et puis jouer peut-être les troubles faites pour le titre de champion. Mais encore une fois, rien ne vient par hasard. Je pense que certains joueurs, le club avait peut-être besoin aussi d'avoir une claque comme ça. Ça fait partie de l'expérience du haut niveau, et que ils vont s'en servir de cette claque-là, parce que ils ont mal géré le match. On va pas refaire le match contre Lyon, mais ça s'est joué aussi dans les têtes, dans l'approche, dans la façon de mener et de rentrer comme ça en deuxième mi-temps. Ils ont fait trop d'erreurs. Ils l'ont payé cash. Mais ça fait partie de la jeunesse. Je crois qu'on est tous passés par là au d'un moment. T'apprends aussi avec ce genre de d'échecs. Mais moi, j'ai aucun doute que ce club et ce groupe de joueurs va rebondir, parce qu'ils ont montré beaucoup de qualité depuis le début.
Capitaine, t'es d'accord avec tout ça ?
Ouais, Monaco s'est trompé contre Lyon. On l'avait dit avec Jérôme d'ailleurs.
Ouais. Hein.
On l'avait dit. Attention, s'ils le mettent sur le plan de la. Sur le plan de la pas de la vengeance, mais en tout cas de l'agressivité, de règlement de compte, voilà exactement ce qu'on avait dit. Ils vont le payer cher, et ils l'ont payé cher. Bon, à Reims, ils ont quand même une grosse carte à jouer encore, l'AS Monaco. Celle de rester sur le podium, et c'est pas rien. Mais on va regarder quand même avec attention comment ils vont réagir. Je suis pas sûr, même si on a entendu des gens dire, vous voyez, ça y est, on a évacué la déception. Je pense quand même que c'est pas facile à évacuer.
Ouais, ouais.
Alors, passons à Lyon qui s'est imposé face à Monaco. Lyon, et Jean-Michel Aulas a parlé d'une éventuelle saison sans Ligue des Champions, Edouard. Est-ce que ce serait une catastrophe?
Alors, donc, on va déjà redéfinir l'OL qui a 71 ans. Ça, déjà, l'année prochaine, ça sera sa 36e saison européenne. Et dans l'ère Jean-Michel Aulas, ses 32 ans de présidence, ça sera la 24e fois qu'il y aura de l'Europe avec l'Europa League, donc au minimum. Et s'il y a une Ligue des Champions, ça sera la 19e fois. Tout ça pour dire qu'il y a une forme de Ligue des Champions dépendance à Lyon, dans l'attente des fans, des VIP, des joueurs, mais aussi Ligue dépendance économique. Alors, ce matin, on avait une conférence de presse de Jean-Michel Aulas pour une prolongation d'une joueuse de l'équipe féminine, Delphine Calcarino, et du coup, on a eu l'occasion de lui poser quelques questions. Que nous a-t-il répondu justement sur cette pression peut-être supplémentaire aujourd'hui par rapport à cette saison de pandémie, avec tous ces millions qui se sont envolés avec Mediapro et l'absence de public ? La pression est sur moi, a répondu le boss de l'OL, pas sur les joueurs, parce que de toute façon, ils seront payés, il n'y a pas de problème là-dessus. On aura certes de grosses difficultés, je l'ai dit, les pertes seront considérables cette année, mais comme dans la plupart des autres clubs. Par contre, on a des fonds propres que les autres n'ont pas. A priori, on résistera mieux que les autres. Voilà ce qu'a dit Jean-Michel Aulas. Ces fonds propres, c'est 156 millions d'euros. Alors certes, il y a une chute d'activité de 20% cette année. Certes, déjà sans Coupe d'Europe cette année, c'est 51 millions en moins dans les caisses. Il y a une forme de Ligue des Champions dépendance, mais l'autre versant, c'est donc ces millions engrangés, ce bas de laine qui va donner un petit peu d'élan quand même l'année prochaine à l'OL, même sans Ligue des Champions. Mais quand même, la présence en Ligue des Champions serait réconfortante et surtout attirante pour les joueurs.
Non mais elle est dramatique, Edouard. Tu te laisses pas endormir par ton président. Il y a les drames sportivement. Mais financièrement,
millions,
ok.
156
non.
Millions,
non, mais on est d'accord.
Le moyen de affronter l'avenir. Mais je remettais le contexte. Non, mais je ne suis pas fait endormir. Je lis juste les chiffres pour remettre les chiffres dans le contexte.
D'accord.
Quand on
okay.
a 156 millions dans les caisses pour l'instant.
Oui, d'accord. Si ok.
Le
mais c'est...
tu as les moyens de faire. Après, je te okay, dis bien évidemment, mais... une présence en Ligue des Champions serait réconfortante, mais aussi attirante pour les joueurs.
Elle serait. Moi,
du début à la fin.
Moi, elle serait dramatique. Elle serait dramatique. Sportivement, financièrement, moi j'en ai rien à faire que ça se passe bien et tant mieux pour Lyon, dire que ils aient des fonds de côté, que ils aient anticipé aussi ces mauvaises saisons sur en France et de pas faire la Coupe d'Europe, que ça soit l'UEFA ou la Ligue des Champions. Mais bon, je suis désolé, mais sportivement, quand tu vois les moyens de Lyon, ce qu'ils ont essayé de construire, si tu fais pas la Ligue des Champions cette année, mais c'est pour ça que je te dis que c'est dramatique, parce que pour avoir des joueurs, comment tu reconstruis l'effectif, avec qui et tout ça, c'est encore une perte de temps. Et dire Lyon ne peut pas se permettre encore une fois une année de plus de pas faire la Ligue des Champions.
D'autant que Jean-Michel Aulas a déjà dit le contraire. S'il s'est battu autant l'an passé, à juste titre d'ailleurs, et là sur ce coup-là je lui donne pas forcément le temps pour que le championnat continue et qu'il soit qualifié éventuellement comme il l'imaginait pour une Ligue des Champions, et c'est parce que déjà il y avait un petit problème et qu'il aurait préféré avoir la manne financière de la Ligue des Champions plutôt que de l'avoir lui passer sous le nez. Une fois c'est compliqué, deux fois ça l'est, mais c'est alors dramatique, je sais pas si c'est cet adjectif qu'il faut employer. Mais il y a le côté financier, mais il y a aussi le côté sportif, Doudou. C'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais, qui n'est plus européen en Ligue des Champions comme il l'a été régulièrement, c'est le standing qui est en train de baisser. Donc, je pense que.
Mais les joueurs, Jean-Michel, les joueurs, les supporters, d'un moment, t'as bien, c'est bien beau d'entendre les choses financières.
Ils s'en foutent des fonds propres.
Mais bien sûr, ils s'en foutent. Eux, c'est des passionnés. Ils ont envie d'avoir des émotions.
Après, les infos économiques, c'est bien de les rappeler aussi. Voilà.
Jusqu'au 30 juin prochain.
Alors,
Non, mais ça, juste pour dire, quand il parle des fonds propres et puis qu'il se refuse à prendre depuis des années et des années, je ne vise pas spécialement Garcia, Genesio ou les autres,
oui.
Le grand coach qu'il annonce à corps et à cri, les supporters...
C'était pas Genesio ? C'était pas Garcia ?
Tous ceux que t'as défendu ? Bon bref,
merde. C'était pas Le Guen ? Voilà.
On s'est marqué.
Donc les supporters peuvent lui renvoyer quand même aussi en lui disant, si vous avez de l'argent... Prenez un grand coach.
19h13, tour des stades. On y va. Quatre infos.
Et il y a des évolutions.
Oui, bien sûr. On y va donc pour le tour des stades.
Tu sautes sur tout ce qui bouge, toi. C'est incroyable, ça.
On y va donc avec quatre infos, donc, et vous me dites ce que vous retenez. Rennes, puisque Rennes-PSG, c'est un match très important. Dimanche, 21h, Xavier Grimaud. Deux absents importants côté Rennes.
Oui, Rennes qui sera privé de ses joueurs cadres dans le même secteur. Deux joueurs cadres, Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga, sont suspendus. Alors c'est évidemment un coup dur. Il n'y a pas énormément de solutions pour Bruno Genesio. Il y en a une au moins qui est évidente. C'est Clément Grenier qui devrait prendre une place au milieu de terrain. Pour la seconde, c'est plus compliqué. On peut lancer un jeune en Ligue 1 comme Leslie Hugo Chokou. C'est un jeune espoir, mais il a que 17 ans, donc c'est trop risqué. On devrait donc voir Bourigeaud glisser au milieu avec Grenier et Flavientet un peu plus haut.
Monaco, on en a parlé, qui est à Reims dimanche à 17h. Finalement, il n'y aura pas tant de retour que ça dans l'effectif, Clément.
Oui, hier, on annonçait que Diatta était présent à l'entraînement, que Golovin pourrait être titulaire et que Jelson Martins serait de retour. Tout ça est vrai, sauf que seul le Portugais Jelson Martins pourrait être finalement présent à Reims. Crépin Diatta est encore trop court physiquement, a expliqué Kovac cet après-midi. Et pour Golovin, il a suivi un entraînement adapté depuis hier après 10 jours d'isolement et a encore besoin d'un test PCR négatif, d'un examen médical afin de voir si sa forme lui permet de jouer. La vie est plus importante que tous les matchs de foot, a dit Kovac, toujours très prudent sur la santé de ses joueurs. On en saura certainement plus demain sur la présence du Russe à Reims.
Il devrait pas jouer, donc a priori, si on suit ce discours.
C'est mal parti.
À Lyon, finalement, il y a un retour important. Et là, ça s'est joué en commission, Edouard, donc pour le groupe qui recevra Lorient demain à 17h.
Alors, on vient de recevoir le communiqué de l'OL. C'est tout frais. L'OL qui fait appel devant la conférence des conciliateurs du CNOSF pour la suspension et le carton rouge de Mattia Deschilio. Étant donné que cette saisie est suspensive, Mattia Deschilio est présent demain donc il n'est pas suspendu, le défenseur italien, et la commission se réunira mardi 11 mai prochain, donc peut-être il sera suspendu pour le match d'après, si bien que l'OL se retrouve quand même, mine de rien, avec un défenseur de plus, et peut-être aussi, même sûrement, Jason Denayer, donc moins de problèmes que cela pour les absents du côté de l'OL. C'est là, c'est tout chaud, hein, au niveau de matière des figures.
Et vous me connaissez, je garde le meilleur pour la fin. Bordeaux, qui est à Nantes demain à 13h, incertitude autour de Ben Arfa, Nico.
Le coup dur. Touché aux adducteurs, Atem Ben Arfa. Il sera pas du. Il est très incertain pour demain. C'est pas vraiment une grosse perte pour Jean-Louis Gasset, parce que je vous rappelle quand même les stats. Hein. Ben Arfa a démarré que 3 des 10 derniers matchs. Il a plus été décisif depuis le 23 décembre dernier. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de matchs sur cette deuxième partie de saison.
Il a tout donné au début.
Ouais, c'est vrai qu'il a trop donné.
Il a beaucoup donné au début.
Sur la deuxième partie de saison, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que la première était incroyable.
Ah, bah la première, il a début de 4 passes D.
Sur la première partie de saison, il a fait combien de matchs? 5.
C'est bouleversant. C'est ça.
Qu'est-ce qu'on retient, Jérôme?
Ah bah
Ben Arfa.
Non, je pense qu'à Rennes, on rigole, mais à Rennes, il y a beaucoup d'absences quand même là sur ce match. Il joue le Paris Saint-Germain.
Mbappé suspendu.
Ouais, mais bon. Le Paris Saint-Germain se remettra plus facilement de certaines absences que Rennes. Rennes, on voit l'effectif. Surtout, c'est au cœur du jeu. Du moins, Kavavinga, Nzonzi, ça fait beaucoup. Mais bon.
Messieurs, dans un instant, le multiplex de la 36e journée se poursuit avec ce match de la peur entre Nantes et Bordeaux. À tout de suite.
RMC.
18h-20h.
Roten Régal. Jean-Louis
Tour,
Jérôme Roten.
19h18 sur RMC, toujours dans Roten Régal. Allez Jean-Louis, on continue notre multiplex ligue. Hein. Ouais, on a encore plein d'infos.
Et on ira à l'étranger, en Espagne, un énorme Barça Atlético. En Angleterre, il y a déjà la finale de Ligue des Champions ce week-end en championnat entre City et Chelsea. On y reviendra tout à l'heure. La Ligue 1, effectivement, avec Edouard G, Clément Brossard, Nicolas Paolorsi et Xavier Grimaud, puisqu'on évoque tout de suite Nantes-Bordeaux demain. 13h, le match de la peur, clairement, entre les Nantais 18e, barragiste avec 34 points, et Bordeaux 15e avec 39 points. Ça veut dire qu'en cas de victoire de Nantes, eh bien, il y aurait plus que 2 points d'écart entre ces deux équipes à 2 journées de la fin. Alors, on va commencer par Nantes, juste après Jean Baumel qui nous appelle le bus. Où est le bus?
Okay, ah bah il avance tout doucement, je veux dire qu'il y a, c'est incroyable. Franchement, il y a des fumigènes, mais dans tous les sens. C'est un brouillard.
Allez, Pino,
rouge
allez, Pino.
Et jaune, c'est assez impressionnant. Des pétards, il faut même faire attention de pas en prendre un sur soi parce qu'il y en a. Ah oui. Ça claque dans tous les sens. Vous entendez les supporters qui acclament, qui encouragent les joueurs lensois que je vois. Ils sont à 1m50 de moi. Voilà, ils font signe forcément à travers le bus. La motivation, forcément, pour ce derby, ce 112e derby entre Lens et Lille. Ah oui, c'est incroyable. Je vais vous laisser écouter un petit peu quelques secondes.
Jérôme, t'es pas obligé de chanter. Ah, Jérôme, il a bloqué.
Bon, à un moment, ils ont fait Roten, Roten.
Allez.
Ils sont pas encore arrivés au stade, hein,
Après tous ces matchs à huis clos, ça fait plaisir d'entendre les supporters.
Franchement, j'en ai des frissons.
Ah ouais, non mais.
Là, j'imagine dans le stade, sauf qu'il sera vide.
Ça fait tellement longtemps qu'on a pas entendu ça.
Et puis pour Djibo, c'est beau parce que là, vu que c'est un supporter lensois, tu prends tout à fond, quoi.
Moi, je suis supporter du Racing Club de Lille.
Merci, Djibo. Oh, quelle ambiance, quelle folie, là, c'est magnifique. Hein. Ça vous a donné des frissons, les gars, aussi?
Évidemment.
Ce sera pas la même à Nantes, demain.
Surtout quand Djibo a dit que le bus avançait tout doucement.
C'est vrai que c'était important. Alors, donc on allait sur Nantes. Nantes et ses clubs historiques qui sont peut-être condamnés à la galère. C'est ce qu'a dit Antoine Comboire et Xavier.
Ouais, exactement. Le FC Nantes qui est au bord du gouffre, hein, cette saison. 3 matchs pour sauver sa peau. Enfin, pour Antoine Comboire, il y en a 5 parce que clairement, il se projette à juste titre sur le maintien le 30 mai prochain au barrage retour face au club de Ligue 2. Mais cette saison est peut-être juste une répétition de ce qui attend les Nantais les prochaines années s'ils se sauvent. Peut-être pas autant galère, mais des saisons loin du haut de tableau. Parce que Comboire, il a été assez cash. Hein, il a dit sur les clubs comme Nantes ou Bordeaux qui galèrent comme pas possible. Ça fait de la peine, ça fait pitié même, mais faut être réaliste quand on voit les budgets que l'on a. On ne peut plus lutter avec des équipes équipes du haut de tableau, même des équipes comme Rennes. Ce serait une surprise de nous voir dans le haut. Voilà ce qu'il a dit, donc assez cash, hein, Camboiré. On peut quand même nuancer en voyant que Nantes a cette année 75 millions d'euros de budget estimé, c'est-à-dire le 9e budget de Ligue 1. Et si on revient sur les 15 dernières années, Nantes n'a fini que deux fois la 9e place ou mieux. C'était 7e avec Conceição en 2017 notamment. La place moyenne du club, c'est plutôt autour de la 13e place. Alors le budget a peut-être un peu le dos large. C'est pas vraiment une question de budget, mais plutôt une question de politique sportive. Jérôme, capitaine, je pense que vous serez d'accord. Et au passage, on va souhaiter un bon anniversaire à Valdemar Quitta. Il fête ses 68 ans aujourd'hui, messieurs.
Transmets-lui le bon anniversaire de Jérôme Rotten.
Bon, oui, donc, je lui dirai demain. Pourquoi tu rigoles?
Bah oui, non mais
ça veut dire que j'ai un problème avec Valdemar Quitta.
Non, pas du tout.
Un problème. Bien sûr, je lui souhaite un bon anniversaire.
On lui souhaite, évidemment.
Il profite bien et en espérant pour son club qu'il arrive à s'en sortir déjà ce week-end. Mais sur le à court terme déjà, et puis après à moyen terme, parce que en effet, Xavier, t'as raison. Je veux dire, c'est un problème de gestion de club, la politique. Qu'est-ce que tu veux mettre en place?
D'argent mal dépensé.
Et oui. L'argent, il en a mis. Et il continue à en mettre. Et ça, on peut pas lui reprocher. Mais il faut être un peu plus judicieux, un peu plus efficace, et surtout bien sentir les choses, ce qui est pas le cas. Alors, est-ce qu'il a eu le nez avec l'arrivée de Camboiré et que Camboiré arrive à s'en sortir? Moi, j'étais sceptique au départ. En effet, le classement, pour l'instant, lui donne pas raison, parce que il me semble, Xavier, tu me dis des bêtises, mais quand il est arrivé, ils étaient pas relégables.
Non, ils étaient juste devant.
Ils étaient 17e quand il arrive, il passe 19e très vite. Et
il aurait fallu maintenir Domenech, c'est ça que tu veux dire?
Le paradoxe,
Jérôme, c'est que je crois qu'ils sont effectivement descendus au classement, mais que leur moyenne de points
a augmenté,
n'est pas si mauvaise que ça. Enfin,
elle était tellement nulle avec Domenech qu'elle pouvait être mieux.
Mais il se passait un truc, on lui a pas laissé le temps.
Et surtout avec Gourcuff, est-ce que il faut comparer avec Christian Gourcuff sur la première
partie? Plutôt qu'avec Domenech.
Oui, Domenech, c'est une erreur de casting.
Domenech, c'est incomparable. C'est du très haut niveau.
Il y a un peu de chance aussi.
Vous êtes dans le top là avec.
Et est-ce que ce match-là ne va pas se jouer surtout dans les têtes, au mental? Et à ce petit jeu-là, est-ce que les Bordelais sont moins préparés au combat, Nico?
C'est possible parce que Bordeaux n'est pas une équipe qui a été créée pour jouer le maintien, même s'il y a des joueurs d'expérience quand même, hein. Benoît Costil, il y a Mécher, on peut penser à un joueur comme Loris Benito aussi, qui est international suisse, qui a de la bouteille, mais c'est jamais des joueurs dans leur carrière qui ont vraiment joué le maintien. Et d'ailleurs, Costil, il nous l'a dit en conférence de presse hier, il nous a dit franchement, s'il y a un truc que je ne digérerai pas dans ma carrière, c'est de descendre avec les Girondins de Bordeaux. Donc voilà, et le mot d'ordre cette semaine, ça a été un peu de faire redescendre tout le monde sur terre, parce que on se souvient de ces chants sur le parvis du match Mutatlantique la semaine dernière après la victoire face à Rennes, avec notamment les petits jeunes lancés par Jean-Louis Gasset qui avaient mis l'ambiance. On était venu communier pour remercier les supporters qui avaient un petit peu comme les Lensois escorté le bus et tout ça.
Non, c'est Fred Hermel qui se connecte pour tout à l'heure. Bon, vas-y, finis, Nico.
Donc on a essayé de tempérer un peu tout ça cette semaine, du côté de Costil, du côté de Gasser, en disant c'est pas fait, faut qu'on fasse le job à Nantes. On peut quand même penser que si Bordeaux va chercher un nul demain, ça sera fait pour le maintien.
Non, mais on est d'accord, Nico, mais moi là il est là le problème, encore une fois, dans ce que tu montres, que tu as envie de communier ça avec tes supporters, la victoire que tu recherchais depuis, mais au bout d'un moment il faut garder les pieds sur terre. Ouais. Dire, tu peux pas être autant dans l'excitation après une victoire,
Tu peux pas dire ça.
Moi, écoute, je suis bien placé pour le savoir. J'ai vécu une année galère avec le Paris Saint-Germain. On en a eu des bons résultats à 3-4 journées de la fin. Mm-hmm. Sauf qu'on était toujours à la limite parce que derrière, ça gagnait. Et ben là, tu dois te rendre compte, tu dois au moins attendre les résultats de la journée de championnat et te rendre compte que cette victoire contre Rennes, en effet, heureusement qu'elle est arrivée, parce que si elle n'arrivait pas, c'était dramatique, mais que vu le calendrier que tu as, c'est loin d'être gagné encore, parce que si tu perds à Nantes, moi je sais, je peux t'écrire ce qui va se passer. Si tu perds à Nantes, et ben moi je pense qu'ils vont descendre.
Ah ouais.
Du moins, au moins le barrage.
Okay. Nantes
est quasiment assuré de faire le barrage.
C'est vrai que les Nantais ont un meilleur calendrier. Bordeaux, ils recevront Lens et ils iront à Reims.
Alors que Nantes va à Dijon et va recevoir Montpellier, qui n'aura plus rien à jouer. Donc tu peux t'imaginer que sur les deux matchs d'après, ils vont prendre 6 points.
Jérôme, oui. Jérôme, ils peuvent. J'ai été étonné que dans les successeurs éventuels de Maignan, tu m'aies pas cité Costil. Parce que.
il est vieux.
Oui, et puis il fait une bonne saison. Mais je crois
pas. Pour le coup, c'est pas le plus mauvais Bordelais cette saison, loin de là. Hein.
Eh bien, ça prouve le niveau des autres.
Il a 23 ans. Oui, il avait envie d'en mettre une à Costil. Ouais,
tu nous as ressorti ta vieille fixette. Bon, écoute, voilà.
J'ai l'impression que le compte va bientôt arriver.
Ouais. Attention.
Non.
C'est tout, capitaine, sur ce match. On peut faire le tour des stades. On y va. 19h26, le deuxième tour des stades. Celui qui conclut ce multiplex. Et on va parler de Lorient dans cette course au maintien. C'est important aussi d'avoir des nouvelles de Lorient qui va à Lyon pour marquer, Xavier Grimaud.
Ah oui, Christophe Pélissier ne va pas à Lyon pour défendre, tout simplement parce que Lorient ne sait pas le faire. Lorient qui a encaissé 62 buts cette saison, c'est la 18e pire défense. Mais par contre, il le dit, toutes les équipes, je pense, savent qu'on peut en marquer des buts avec évidemment Mofi, Wissa, Lorienté en tête d'affiche. Alors Lyon est prévenu, les résultats à l'extérieur de Lorient, ils sont catastrophiques. Mais chez les gros récemment, ils sont capables de planter. Ils en ont mis 2 buts à Marseille, ils en ont mis 2 buts à Monaco. Donc ils marqueront très certainement au Parc OL.
Donc on rappelle l'horaire, c'est donc demain 17h, ce Lyon-Lorient. Jean-Michel Aulas donc qui est venu, qui a écrit un message, Edouard, c'est ça, donc sur cette rencontre.
En fait, vous savez à quoi on ressent que la période est un petit peu cruciale, c'est que Jean-Michel Aulas écrit à ses joueurs. Alors certaines fois il écrit des lettres qu'il met dans les casiers des joueurs, et en ce moment il écrit sur des paperboards juste avant la causerie à l'hôtel des joueurs. Alors il y a une citation, souvent c'est Churchill. La semaine dernière, avant le match face à Monaco, c'était Maurice Herzog, un alpiniste qui a vaincu l'Annapurna en 1950,
grand ministre des sports,
exactement, homme politique derrière. Être le premier au sommet ou gagner un match capital, écrit Jean-Michel Aulas de sa main, n'a pas d'équivalent. On innove, on crée, on marque son empreinte, on se donne une mémoire pour l'éternité. Voilà ce que lisent les joueurs quand ils rentrent dans la salle de la causerie. Et comme me dit un cadre, ça fait toujours son effet avec les yeux perçants et persuasifs du président Aulas.
J'en ai des frissons. Moi, j'en ai des frissons.
Non, mais là, on rigole.
Tu veux rentrer dans le match. Attention, tour de stade.
Ah, merde.
Stop. Retour important à Bordeaux, Nicolas.
Ouais, c'est difficile d'en rebondir après cette citation quand même. Mais Ben Arfa est incertain. Thomas Bazic aussi, le milieu de terrain est incertain. Il y a deux retours côté bordelais. Jean-Michel Seri qui revient de suspension, et Nicolas Depréville pour le coup. Il n'a pas été du tout efficace cette saison, mais vu le secteur offensif des Girondins ces derniers temps, ça pourrait faire un peu de bien.
Toutes les infos Nico sont incroyables. Et puis on termine pour être complet sur Monaco à Reims, Clément, sur Ben Yedder, tu voulais nous en parler.
Oui, parce qu'il est très heureux à Monaco, Wissam Ben Yedder, taulier, capitaine, buteur face à Lyon, un but important, c'était le 19e de sa saison, il n'avait jamais fait mieux en carrière sur une saison, et de deux, c'était son 100e but en Ligue 1. J'ai toujours rêvé de marquer beaucoup de buts, et ce depuis que je suis enfant, c'est une fierté, nous a dit Ben Yedder cet après-midi. Et vous le savez peut-être, mais si son père était fan des Verts, certains, Jean-Michel Larqué, lui, était supporter de Monaco étant gamin, et l'idée de disputer la Ligue des Champions avec son club de cœur fait qu'il sera certainement difficile à bouger du rocher.
Je sais qu'il nous a autant le père était fan de Jean-Michel, et lui est fan de Jérôme Rotten, parce qu'à Monaco c'était magnifique,
bien sûr. Dans un instant, merci les gars. Oui, ça, merci Nico Paul, merci Xavier Grimaud.
On a pas eu ton destin de Nico sur le décalage de l'apéro quand même. Parce que pour une fois qu'il est là, d'habitude l'apéro est plutôt pour Nico Paul.
C'est vrai.
Mais j'attendais, heureusement qu'ils m'ont pas appris dans la course au titre à 21h ou à 20h30, parce que c'est trop tard, vendredi soir.
Allez, je me suis mis le paperboard devant moi.
Tu risques rien pour la course au titre, tu risques rien.
C'est quoi la phrase, Jérôme? La phrase de mon paperboard. Ah, à celle de Jean-Michel Aulas.
À chaque fois, j'ai notre patron, Karim Medjari, qui me met une phrase là. Je suis comme un fou là.
Très bien.
Je suis excité.
Exactement. Dans un instant, le foot européen. Merci les gars, toute la 36e journée de Ligue 1 sur RMC. Tous les matchs en direct. Évidemment, ça commence dès ce soir, 21h. Lens, Lille, le foot européen, il y a d'énormes affiches au week-end en Espagne, en Angleterre, on y va dans un instant. Et annonce de l'UEFA, les premières sanctions contre les clubs qui voulaient rallier la Super League. Je vous en parle dans un instant, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten Régal. Jean-Louis Tour,
Jérôme Rotten.
19h32, toujours dans Rotten Régal. Allez, reste une demi-heure, Jean-Louis Tour, Jean-Michel Larqué, toujours avec moi bien sûr. Il y a le quiz bientôt.
Exactement, 32-16 pour vous inscrire.
Mais avant...
Foot européen.
Ah oui.
RMC, Rotten Régal. Absolutely
brilliant. Le multiplex européen.
Avec ce week-end deux énormes matchs. Barça, Atlético en Espagne. Fred Hermel est avec nous. Salut Fred.
Hola chicos. Salut Fredo.
Et tout simplement la finale de la Ligue des Champions entre Chelsea, entre Manchester City et Chelsea. De demain 18h30, Julien Laurent c'est là. Salut Julien, l'homme de l'année même.
Salut Julien. Salut à tous. Salut Julien.
Alors, juste avant de parler de ces matchs, messieurs, l'UEFA vient d'officialiser dans un communiqué il y a quelques minutes les sanctions contre donc les 9 clubs qui ont annoncé leur participation au projet de Super League et se sont retirés depuis. Donc on parle d'Arsenal, Milan, Chelsea, l'Atlético, l'Inter, Liverpool, City, United et Tottenham. Ces clubs, la principale sanction, c'est qu'ils vont avoir un rabais de 5% des recettes qu'ils auraient pu percevoir sur la prochaine saison de Ligue des Champions.
Ils sont contents déjà qu'ils voulaient plus d'argent, alors on leur en retire. Voilà.
Par ailleurs,
c'est bizarre que l'UEFA touche le portefeuille. C'est assez bizarre. Ouais.
Par ailleurs,
c'est pas leur genre.
Pour être complet,
c'est vraiment pas le genre de
vous savez qui
c'est. Tu sais, Jean-Michel, le football populaire, tout ça.
Ah oui, ils aiment ça.
Par ailleurs, trois clubs sont toujours dans ce projet, ne se sont jamais retirés.
Et eux,
le Real, le Barça et la Juve. Eh bien, les concernant, l'UEFA se réserve le droit de prendre les mesures qu'elle juge appropriées, donc peut-être plus sévères que
j'aimerais entendre Zinedine Zidane là-dessus, s'il a un avis.
Il a peut-être un avis, mais il ne le donne pas. Alors, Fred, donc.
On parle d'une sanction qui serait que. Parce que dans la réforme de la Ligue des Champions, il y aurait un repêchage pour deux clubs historiques suivant le coefficient UEFA si jamais ils ne se qualifiaient pas par leur Liga, par leur championnat respectif. Alors, ils pourraient supprimer ça.
Oui,
ça veut dire qu'ils tremblent au Real.
Ouais.
Parce que pas finir dans les. Il faudrait que. Si le Real ne termine pas dans les quatre premiers, il ne pourrait plus être repêché.
Oui, bah là, c'est pas cette année.
Non, cette année, c'est bon. Mais de toute façon, il y aura
ça n'arrivera jamais, tu veux dire.
Mais bien sûr, ça n'arrivera jamais.
C'est une grosse sanction, oui, bien sûr.
Parce que si le Real ne termine pas dans les quatre premiers, c'est qu'il n'a plus rien à faire en Europe.
Oui, exactement.
Alors, Fred, on ne va pas parler du Real. Le Real pourrait être le grand gagnant s'il y a match nul, par exemple, entre le Barça et l'Atlético.
Ou s'il y a victoire du Barça contre l'Atlético, puisque le Real joue dimanche contre Séville. Et le Real a le goal average particulier favorable par rapport au Barça, mais aussi par rapport à l'Atlético. Mais bon, le gros match, c'est demain.
Exactement. 16h15 au Camp Nou, donc Barça Atlético. On a un duel qui arrive tout de suite en tête, là, c'est Messi Suarez, forcément.
Ah bah oui, c'est le retour de Suarez. Rappelez-vous ces mots de Messi en septembre-octobre lors d'une grande interview à une télé espagnole quand il disait ils ont fait n'importe quoi les dirigeants, mais comment, c'est une folie d'avoir mis dehors Suarez gratuitement et surtout de l'avoir envoyé chez un rival direct. Il avait vu, et réellement, parce que il avait vu clair, Messi. Parce que le rival, il est plus que direct, c'est même le leader de la Liga. Donc, c'est dingue. Surtout que Suarez, la greffe a prise à l'Atlético. 21 buts cette saison. En plus, des buts souvent très importants, les buts qui donnent les victoires, ou qui permettent les égalisations. Un Suarez qui, a eu le Covid, a eu un petit problème il y a un mois, une petite déchirure musculaire à la jambe gauche, mais qui est bien là, et qui sera évidemment la plus grosse menace pour cette équipe du Barça, même si beau joueur, le Barça, d'ailleurs ce ne sont plus les mêmes dirigeants quand même que ceux qui ont viré Suarez, même si c'est le même entraîneur que Mann, il y aura a priori un hommage à Luis Suarez pour son premier retour sur la pelouse du Camp Nou.
Oh, c'est logique ça.
Comment tu vois ce match, Jérôme?
Écoute, l'Atlético, moi je les voyais un petit peu en perdition, ouais. C'est un grand mot, mais
perte de vitesse.
Ouais, perte de vitesse, et c'est vrai que dernièrement ils se sont bien repris.
Après, ils ont eu quelques absents à un moment, dont Suarez,
ouais.
Et maintenant ils ont récupéré tout le monde.
Ils ont tout le monde. Et puis,
de toute façon, la liste des convoqués, il peut y avoir tout le monde. Tout le monde est à disposition. Voilà, ouais. Jiménez a des petits problèmes musculaires, mais à part lui, il sera quand même dans le groupe.
Ouais, sinon, il y a tout le monde.
Il peut faire ce qu'il veut, Simeone. D'ailleurs, il va même laisser, il semblerait, João Félix sur le banc. Hein,
non, mais c'est important. Et puis après, où ils ont eu la réussite, c'est que quand ils ont perdu des points, les concurrents, la défaite de match en retard de Barcelone à domicile contre Grenade.
C'est terrible. Ça,
c'est horrible.
C'est une contre-performance terrible. J'imagine pas que le Barça puisse perdre deux fois de suite sur son terrain.
Ouais.
Cela dit, ça prouve quand même qu'ils avaient une chance unique de se remettre dans le coup, le Barça. Et là, c'est un coup d'arrêt. Et moi, je les crois, je les pense fébriles, même si entre-temps, ils sont allés gagner du côté de Valence, c'est ça,
ouais, Fred? Valence, ouais.
Ouais. Bon, mais je les sens pas bien. C'est
le Barça,
c'est Barcelonais. Ouais, je les sens pas.
Et après c'est toujours pareil, hein, Jean-Michel. On dit ça souvent et c'est vrai que cette défaite contre Grenade, nous montre que Barcelone peut perdre contre.
Même si Grenade est une bonne équipe.
Ouais, Grenade est surprenant. Bah là, ils ont fait quand même quart de finale d'Europa League cette année, donc ça montre leur qualité. Mais voilà, il y a un match coup près là. L'expérience, elle peut être aussi du côté de Barcelone. La façon d'avoir toujours été le chasseur et d'avoir l'occasion de rattraper ton retard là sur un match sec, c'est peut-être un avantage aussi pour Barcelone.
Je suis de retour là. C'est quand même mieux quand je suis à côté de vous. Hein.
Ah bah c'est sûr, on est tous bien meilleurs quand t'es à côté de nous en plus.
C'est vrai. Non mais moi je suis d'accord avec ce que dit Jérôme, je pense qu'il y a quand même avantage au Barça. Parce que l'Atlético, oui, c'est un peu refait la série ces dernières semaines, mais franchement, le week-end dernier, le Malte à Elche, qui est quand même pas un foudre de guerre, c'est un match de l'Atlético qui a peur, de l'Atlético. Ouais. Pour moi, il y a une fracture.
Avec un péno à la dernière minute pour Elche, se mettre sur le poteau.
Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une fracture qui s'est produite, match aller de 8e de Ligue des Champions, les 6 défenseurs et puis ce match horrible. Voilà.
À partir de le vestiaire et Simeone?
Non, mais c'était le début. Et depuis, il n'y a plus rien offensif. C'est-à-dire que c'est une équipe ultra. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un beau résultat, puis il y a eu un 6-0 contre, je sais plus qui, Eibar, je crois.
Oui, Eibar, le dernier.
Qui est dernier, ils sont 26 points, Eibar. Ils sont là-bas. Oui.
Mais franchement, le match à Elche l'autre jour, tu as raison, ce pénalty sur le poteau à la dernière minute. Franchement, cet Atlético est hyper poussif, il finit mal, et puis pas dans un bon esprit. C'est-à-dire l'esprit de conquête qu'il y a eu jusqu'au mois de janvier, on l'a plus vraiment aujourd'hui. On a l'impression que Simeone, il est là pour conserver coûte que coûte la première place, mais vraiment, tu sais, un peu radin dans le jeu. Ouais. Et en général, quand t'es comme ça, quand t'as pas l'esprit de conquête, je pense que Jean-Michel est
sur moi, je suis pas radin. Hein.
Non, mais quand t'as pas les, quand t'es un joueur et que tu,
vérifier,
quand tu veux conserver un résultat, conserver ta petite place mais chichement et que t'as pas l'esprit de conquête, en général, quand tu joues contre le Real ou contre le Barça, tu te fais
avoir. Ouais, tu te fais avoir.
Fred, merci. Ce qui s'est passé d'ailleurs.
Oui, exactement. Merci Fred.
Merci les amis.
Merci Fred.
À très vite.
Bon week-end.
Merci Fredo. Adios.
Très bien. L'Angleterre, donc. Et cette répétition générale, donc, ce sera la finale de la Ligue des Champions. Et donc, ce week-end, ce sera demain à 18h30. Il y a Manchester City-Chelsea avec une victoire qui assurerait le titre à City, il me semble,
ouais,
Julien.
C'est ça.
Mais après, à voir quel City sera sur la pelouse. Parce que vu l'avance en championnat, pas sûr que Guardiola mette sa meilleure équipe.
Elle est pas maintenant.
Voilà,
quoi, la finale.
Julien.
C'est vrai qu'il va pouvoir peut-être faire tourner Pep Guardiola, un joueur comme Sergio Agüero par exemple. Guardiola nous a déjà expliqué qu'il allait lui offrir une belle sortie, un bel hommage, donc il serait capable par exemple de le faire titulariser lors des 4 prochains matchs, les 4 derniers matchs de championnat, qui seront les 4 derniers matchs aussi en première ligue de Sergio Agüero. Donc c'est possible, il a encore une fois beaucoup d'options, puisque quasiment tout le monde est aussi disponible, un petit peu comme l'Atlético tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on s'attend à des changements de la part de Pep Guardiola, c'est un petit peu normal. Thomas Tuchel aussi, il y a un enjeu pour eux parce qu'ils ne sont pas encore assurés d'être quatrième. Donc il faut aussi aller gagner. Et puis psychologiquement aussi, on a déjà vu une répétition de cette finale en demi-finale de Coupe d'Angleterre il y a quelques semaines à Wembley où Chelsea s'était imposé. Gagné, un but à zéro, ça avait été un match très tactique. Je pense d'ailleurs que cette finale sera aussi très tactique. Et c'est vrai que le Chelsea de Tuchel avait beaucoup gêné Guardiola, qui n'avait jamais réussi à les empêcher de repartir de derrière dans la construction du jeu. C'est vrai que Chelsea avait été très bon ce jour-là en étant très efficace. Hein. Ça n'avait pas été du super football, mais ils avaient su être efficaces contre City. Ils ont empêché City de jouer. On sait que City a du mal contre des défenses à 5. Et cette défense à 5 là, c'est peut-être la meilleure défense à 5 de cette saison, tout championnat confondu. Celle de Chelsea, il fait un travail exceptionnel avec Thiago Silva et tous les autres, Tuchel. Donc ce sera intéressant effectivement de voir qui jouera et où. Et on aura quand même, quoi qu'il arrive, un petit avant-goût de la finale, c'est sûr.
Lors du dernier match de championnat, il avait fait énormément de tournées. 8 ou 9 joueurs avaient tourné, Julien. Il peut prendre cette option?
Capitaine. Alors,
Je parle de Guardiola. Hein, je parle de Guardiola.
Oui, bien sûr. Non, mais j'avais bien compris, Capitaine, parce que c'est vrai qu'à Crystal Palace, le week-end dernier, on était entre les deux matchs du PSG aussi. Donc, il était un petit peu obligé de faire tourner. Là, il y a une autre journée de championnat en milieu de semaine prochaine. Donc, il peut aussi encore faire tourner, mais t'as moins la pression de reposer un Kevin De Bruyne ou un Riyad Mahrez, par exemple.
Exact.
Pour la Ligue des Champions qui arriverait dès la semaine prochaine, par exemple.
Ouais, et puis t'as déjà perdu, il faut pas oublier quand même, tu l'as dit, hein, ils ont perdu dernièrement en demi-finale de Cup contre Chelsea. Je pense que s'il fait tourner, imagine Chelsea s'impose. pour préparer la finale, et il peut y avoir aussi un petit complexe. Pas, oui. Ah bah oui, ouais, donc, ouais,
tout
donc,
à fait, ouais.
Donc je pense que Guardiola voit les choses différemment. Et puis comme tu dis, la finale, elle est pas, elle est fin mai, hein, donc ils ont encore le temps de la préparer, de faire reposer les organismes.
Et là, dans ce cas-là, est-ce que tu te caches, est-ce que tu caches des choses en pensant déjà à la finale, ou non?
De toute façon, Guardiola peut pas cacher quelque chose.
Et puis se connaissait par cœur, Jean-Louis se connaissait par cœur.
Et puis Tourelle a mis quelque chose en place. Je vois pas faire machine arrière. Du moins, il a fait.
Je reformule différemment. Est-ce que ça peut jouer?
Sinon,
que...
c'est bien la Côte d'Azur anglaise là, parce qu'il y a un peu de vent. Là, t'es quoi? T'es à Brighton?
Non, nous, il fait une chaleur ici incroyable.
Ah, il y a un peu de vent là.
On est un tout petit peu devant. Je suis
bien, c'est le souffle de Julien, on ne sait pas.
Ouais, parce que Brighton, c'est grand jardin aussi. Que,
bon. Brighton, c'est mieux que la Côte d'Azur, c'est magnifique.
Ouais, t'as raison. Est-ce que ce qui va se passer demain, ça peut avoir des conséquences sur la finale, d'une façon ou d'une autre? Ou est-ce que c'est vraiment des rendez-vous très différents et chacun est indépendant, Captain?
Tout compte, mais je pense que ça ferait désordre dans la maison de City si, après une demi-finale perdue, il perdait ce match qui est quand même le match du titre. C'est pas rien demain. Ouais.
Mais après les matchs du titre, il y en aura un la semaine d'après. Ils ont 13 points d'avance. Hein.
Non, mais attends, si à un mois de la finale de la Ligue des Champions, tu arrives en ayant perdu les deux dernières confrontations.
Oui. C'est sûr,
mon avis,
que ça laisse des traces.
Jean-Louis, excuse-moi, tu poses la question, je te réponds comme je l'aurais ressenti si ça m'était arrivé.
J'aime beaucoup quand tu réponds comme tu le ressens.
Mais en plus, Jean-Michel, c'est même pas un problème. Je pense que c'est même pas un problème de joueur, parce que le joueur, quand il prépare sa finale, c'est tellement un moment exceptionnel que il va faire abstraction des dernières performances, ne serait-ce qu'en championnat, contre l'adversaire du soir, donc en l'occurrence Chelsea. Mais c'est plus dans l'approche, et qu'on connaît Guardiola, psychologiquement, comment il est par moment prêt à s'adapter à l'équipe adverse. Là, le fait de perdre deux fois contre Chelsea en l'espace d'un mois, je suis persuadé qu'il peut même lui perdre déjà sa finale avant de l'avoir joué.
Ah oui. Et perdre les pédales. Oui. Effectivement.
En revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir Guardiola pour le match de Coupe d'Angleterre avait essayé quelque chose sur les relances de Chelsea. C'est-à-dire un marquage individuel pour les empêcher de repartir de derrière comme ils le font si bien. On l'a encore vu, bien sûr, contre le Real. Et ça n'avait pas fonctionné. D'ailleurs, sur le but, c'est parce qu'à un moment, je crois que c'était Walker ou Cancelo, il est un tout petit peu trop court. Main, t'arrives à partir, Cancelo. Ça va très vite. C'est le contre du but. Peut-être que là, en revanche, Guardiola va se servir du match de demain pour essayer de contrer Chelsea d'une autre manière et pour voir, ok, le marquage individuel, ça n'a pas fonctionné, ils ont quand même réussi à sortir de derrière. Essayons quelque chose d'autre. Et peut-être que là, en revanche, tu peux mettre quelque chose en place si t'es Guardiola, déjà avec la finale en tête, en disant, et si ça marchait demain, ça pourrait peut-être remarcher pour la finale. Alors que Tuchel, lui, c'est tellement important pour la quatrième place qu'il est obligé de jouer comme habituellement, il va rien essayer. En revanche, Guardiola, lui, peut-être peut se permettre
de tenter des choses,
un coup tactique ou deux. Mmh. Voilà.
Très bien, Julien, merci beaucoup. Le match,
si Julien, oublie pas la crème, hein.
Merci les gars. t'inquiète pas.
Le match, je t'ai vu bien bronzé à la télé déjà toute la semaine.
L'écran
total.
L'écran total. Julien, toute la semaine.
Voilà, c'est pas fini. Ça va l'être encore pendant 15 jours. Hein.
Bien sûr. Et c'est normal et c'est mérité.
Quel homme.
Il a deux avantages, c'est que donc il suit les clubs qui sont en finale de Ligue des Champions, et puis comme on peut pas aller en Angleterre, il est forcément réquisitionné sur tous les matchs. Parce qu'on peut envoyer personne sur place.
Mais il est content.
Voilà. C'est plus fort aussi.
À l'époque, quand il était aux Parisiens, qui s'embêtait un peu là.
Oui, il essayait de te gratter des infos.
Tout le temps.
Ah oui.
Tout le temps, ouais.
Et alors tu répondais?
Je lui donnais un petit peu à manger de temps en temps.
Ah, t'aimais bien pas aujourd'hui.
L'arrivée, s'il est à cette place là aujourd'hui, c'est aussi un petit peu grâce à moi, parce que je lui ai donné des bonnes infos.
Bon, il a déconnecté, Julien, il peut pas répondre. Dans seconde. Le quiz, et juste avant quand même, je vous donne cette info RMC Sport que Nicolas Paul-Orsi nous a envoyé juste après le multiplex, donc il a dû avoir une confirmation juste après. Donc Jean-Louis Gasset, on sait que son avenir ça devrait pas s'inscrire à Bordeaux, il lui reste un an de contrat quand même, hein, sachez-le. Et bien les dirigeants bordelais travailleraient en coulisses sur la venue du nouvel entraîneur, et le nom de Michel Derzakarian arriverait en tête de liste, vu qu'il ne devrait pas continuer avec Montpellier. Alors il y a forcément une zone d'ombre.
Il ne continue pas, c'est sûr. Ça.
Oui, voilà, ne continue pas. Excuse-moi, j'ai mis un conditionnel de trop. Mais comme il y a une grosse zone d'ombre avec le départ de King Street, on ne sait pas encore. Mais le groupe potentiel de repreneurs a placé Derzakarian en tête de cette.
Il va y avoir du beau monde sur le marché. Là, il y a de quoi s'éclater. Hein. Derzakarian, Thierry Loret.
Je croyais les joueurs de Bordeaux.
Michael Landreau. Rudy Garcia.
Ouais.
Moulin qui a dit il a arrêté.
Rudy Garcia,
il va arrêter aussi, c'est pareil. Ah non, mais là, il faut faire le bon choix, parce que là, c'est un choix de riche.
Attention, parce que dans tout ce que tu as dit, il y a aussi peut-être des mauvais choix. Donc voilà, il ne faut pas se tromper.
Voilà,
c'est important. Der Zakaria, en tout cas.
Toi, tu mettrais sur qui, toi? Tu viserais.
Si t'es Bordeaux, tu prends qui?
Là, c'est une brochette en or. Donc, toi qui les connais bien, parce que tu les défends très souvent.
Pour que Roten Régal vive bien, je pense qu'il faudrait un Garcia ou un Genesio.
Bruno Genesio fait des miracles à Rennes.
Il est excellent.
Vous en avez parlé la semaine dernière. On va oublier la défaite contre Bordeaux, parce que celle-là, elle compte pas.
Ils font la vérité numérique. Et ils font un bon match. À Miguel Landreau? Ah ouais.
À Mika, il peut être annoncé à Angers aussi.
Ah oui, oui.
Bon client pour les Girondins, pour
Roten Régal.
Très bon client.
C'est vrai, Landreau, ce serait très bon.
Moi, j'ai une petite info. Je pense que à Angers, peut y avoir une nouveauté.
Bah, dis-nous, t'as une info ou tu l'as pas?
Et
il peut y avoir une nouveauté.
Abibay est pas loin.
D'Angers?
Ouais.
Ah, info Jérôme Roten là.
Ouais.
Info JR25.
Écoute.
D'accord, très bien.
Et tant mieux pour lui, hein. S'il commence par Angers, c'est magnifique.
C'est du même niveau que Messi au PSG par Daniel Riolo?
Bah, tu verras lequel se réalisera.
Très bien. Voilà. Allez, on vérifiera ça très vite. Le quiz dans une seconde. 32-16, à tout de suite.
RMC. Roten Régal. Jean-Louis Tour.
Jérôme Roten.
19h50, toujours dans Roten Régal, bien sûr. Il reste 10 minutes. Ah. Et 10 minutes, c'est quoi, Jean-Louis? C'est le quiz, c'est la boucherie, comme d'habitude. Jean-Michel l'a préparé pourtant, on peut pas le.
C'est vrai. Alors, parfois, je suis en repos le vendredi et je vous dis le truc que je regrette le plus, c'est le quiz. Voilà. J'aimerais bien, quand je suis en repos, venir faire le quiz.
Déjà, c'est une façon de remercier François qui est excellent.
Excellent, François Pinet, bien sûr. Faudrait qu'il arrête d'être aussi bon d'ailleurs, je vais lui dire.
Bah, c'est limite.
J'aime pas trop.
On se pose pas mal de questions.
Ça m'étonne pas. Allez, on y va, on joue.
Mais là, t'as pas été mal aujourd'hui. Mais là, je rien.
La comparaison est peut-être pas toujours à ton avantage.
Oui, écoute, c'est
non, mais on
ça.
En parle souvent avec Jean-Michel quand on fait les débriefs des émissions.
Ouais, j'aimerais bien les voir, vos débriefs d'émissions, tous les deux. Allez, on y va, on joue.
RMC, Roten Régal, le quiz.
Avec vous, messieurs, Alexandre et Bilal. Salut Alexandre.
Salut les gars.
Salut Alexandre.
Tu préfères faire équipe avec Jérôme Roten ou Captain Larquet?
Bon, les gars, je suis passé à 2 semaines. J'ai dit que je voulais jouer avec le dieu, avec Jérôme. C'est grâce à moi qu'il a gagné. On a mis.
Ah oui, tu as été remarquable.
C'est vrai, Alexandre.
Oui. Et ben, Jean-Michel, j'espère que t'as révisé, parce que je vais pas rigoler ce soir, j'espère.
Ah, mais t'es avec qui alors?
Eh ben, je suis avec le dieu vivant, qui a qu'un pied gauche, le meilleur pied gauche français.
Bien, Alexandre. D'accord. Bien, Alexandre.
Ok, t'es avec Monterubio. Voilà. Bilal est là aussi. Salut, Bilal.
Jean-Louis, tu vas trop loin.
C'est pas bien.
Salut, les gars. Salut, toute l'équipe.
Salut, Bilal. Désolé, t'es avec Jean-Michel.
Ah, mais c'est pas grave, je suis un grand supporter du PSG, fan de Jérôme Roten. Mais on va faire une équipe de choc avec le 4-7.
Écoute, accroche-toi, hein, bon courage.
Tu sais qu'il est entraîné le PSG?
Parce que la semaine dernière, il avait des fiches quand même de l'année 2019-2020.
Bon, allez,
je suis
tombé sur Liénard.
De Strasbourg,
c'était la saison d'avant.
Attention, concentrez-vous. Question d'actu. Qui est Jacques Cardoz?
Le nouveau conseiller en com' de
l'Olympique
Lyonnais.
De qui?
Non, de Marseille.
De Marseille,
c'est Captain qui l'a pris. Qui a répondu ça? C'était Alexandre?
Ouais,
c'est
Marseille. Oui, Alexandre.
Ok, c'est
non,
bon.
Non, mais c'est moi, j'ai dit de Marseille.
Mais c'est le point pour Captain Larquet, effectivement. Bah oui, là t'as fait une passe D, t'as fait une Jérôme Roten. T'as fait tout le boulot, mais t'es trompé à la fin. C'est là, pas Lyon, c'est Marseille.
C'est comme les charades. Mettre de la ligne, il n'y a plus qu'à la mettre.
Ah ouais, incroyable cette passe décisive. 1-0 pour l'équipe Larquet. Alors j'ai plein de questions sur Lancine aussi, évidemment.
Normal.
Le match de ce soir. Qui est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de Lille?
Hein?
Deuxième joueur qui est... Non.
Boustira.
Mignon.
Non. Non, c'est récent. Le deuxième plus capé. Enfin, c'est récent, plus ou moins. Et disons que Jérôme peut trouver. Non, sans remonter à Sommerlin, qui est le premier. Le deuxième. Un capitaine historique de Lille, qui a été champion de France avec Lille.
Taforo.
Hasard.
Cabaye.
Non, mais le capitaine de Lille champion, avec Hasard.
C'est tout.
Putain, c'est tout. Oh, vous êtes nul. Allez, j'annule. Non, vous êtes trop nul. C'était ma boue. J'ai annulé avant.
Mais arrête.
Vous êtes vraiment trop nul.
Rio Antonio Mavouba.
J'ai annulé avant. Oh, ah non, mais là, vous êtes trop nul. Mais... Taforo.
Bah oui, mais excuse-moi, Taforo était souvent capitaine.
Qui est le plus capé à Lens?
À Lens.
Ah mais oui, c'est Jean-Claude Wallet.
Non, c'est pas loin.
Marquis Rudy, Stoudira, Six.
Non.
Adjoni Boko.
Non, un latéral.
Ah oui, Sikora.
Oui, Sikora, bien joué.
Un par Sikora, ben oui.
Attention.
Il en a pris des crochets lui aussi.
Qui a dit qui a dit lui, il veut gagner pour lui-même. Moi, pour l'Inter.
Yilmaz.
Ah non.
Non, pour l'Inter.
Ah, Lukaku.
Oui, Lukaku, Jérôme, bien joué.
Bien joué, Jérôme, bien joué, t'es chaud.
Eh oui.
Et ah, Alexandre, je reviens, tu seras rien, toi.
Je reviens à mes questions sur Lens-Lille. Quel joueur ayant porté le maillot de Lens compte le plus de sélections en bleu?
En bleu,
Là, il faut remonter un peu.
Vérel.
Non, il faut remonter encore plus.
Ah ben, alors, Jody Bouzdira.
Verquist.
Non.
Six.
Oui, Six. Captain, bien joué. 2-2.
Oui,
six. Bien joué, Captain.
52 sélections, dont 11 avec Lens. Et attention, même question pour Lille. Qui a le plus de sélections et est passé par Lille?
Cabaye.
Oui, Cabaye, bien joué.
Bien joué, Alexandre.
Oui.
Bien joué.
Ah oui.
3-2.
Bilal, t'es là?
Ouais, je suis là, je suis okay. Mais je suis là.
Non, mais t'as le droit de donner des réponses. Hein,
non, je suis
Bilal, t'es de la Lorraine, hein?
Ouais, je suis de la Lorraine, ouais.
Ah, d'accord, la Lorraine est
grande. Mais là, je suis en vacances, là, je suis dans le sud de Tours.
Attends, je vois que t'es en vacances.
Je suis en vacances, et même dans les réponses, je suis en vacances.
Attention, qui a dit aujourd'hui? Forcément, ça fait plaisir, mais je suis focalisé sur mon club. Toutes mes forces sont pour le club. Le futur, on verra. Je suis focalisé sur le PSG, dit-il.
Mbappé?
Non.
Non, Neymar?
Non.
Bah,
un joueur prêté.
Maria.
Florenzi. Oui, Florenzi, c'est Alexandre.
Ouais, Florenzi.
C'est Bilal, non, c'est moi.
Ah non, c'est Bilal.
C'est Bilal,
non,
c'est Bilal. C'est
Bilal. Ah, c'est Bilal, bien joué, 3-3.
Ah ouais, c'est moi. Ah,
on l'a piqué, Bilal, on l'a réveillé.
Bilal, je
alors, attention, Bilal. Je veux qu'on revienne au dernier Lens-Lille. Donnez-moi, alors c'était en 2015, donnez-moi un milieu de terrain lensois.
Hein?
Koulibaly.
Non. Milieu de terrain.
Kavisak.
Non.
Roll.
À l'époque, il y en a un qui est désormais à Rennes. Et un qui
Bourigeaud.
A joué long. Oui, Bourigeaud, bien joué, Jérôme. Oh, quel match. 4-3. Attention, donnez-moi un défenseur lillois à l'époque. 2015.
2015.
Oui.
Chadjou.
Non.
Beria.
Oui, Beria.
Ah oui, je
ça joué, Beria. Beria.
T'as lui aussi, il en a pris des crochets.
Attention, un attaquant. un attaquant lillois. Ouais, c'est dur.
Gervinho.
Non.
De Lillois.
2015.
Sceaux.
Non.
C'est Demelo. Non, c'est
Hazard.
Plus. Mais non, c'est l'autre là.
Il y en a un qui a joué à Saint-Etienne. Et un qui a Guingamp désormais.
Coquelin. Oui, Rodelin,
bien joué, Captain.
Voilà.
Oh, quel match. Non, c'est Captain.
Non, il l'a dit, Alexandre.
C'est Captain.
Non, Alexandre, calme-toi. 5-4,
c'est Captain. Attention, donnez-moi un des deux entraîneurs à l'époque.
Garcia.
Non.
Wallem.
Non.
2015. 2000.
Il y en a un qui joue le maintien. Leclerc. L'autre qui est en Ligue 2.
Comboiré.
Oui, Comboiré. Jérôme, bien joué. 5-5. Oh, c'est énorme. Et une dernière question.
C'est énorme.
À l'époque, il y a eu un partout dans ce match. Donnez-moi un débuteur.
En quelle année?
Koulibaly.
Oui, Koulibaly, Captain et Gay. Il l'avait noté.
Qui c'est le plus fort, évidemment, c'est les mecs. On a un bon au public et les meilleurs. Allez, on va gagner.
Il se souvient même plus des phrases.
Ah, c'est l'émotion. Ouais. C'est l'émotion.
Il y a un événement qui se prépare. C'est on va l'émotion. Emmener Captain Larquet à Saint-Etienne pour un top of the foot exceptionnel.
Oh
très
là. Mais il y aura l'armée, Pépi. Parce qu'ils lui ont coupé la tête.
Il y aura le quatuor infernal. Enfin, bref, on va se régaler. Ah. Mais tout de suite.
Qu'est-ce qu'on lui a mis à la statue la dernière fois qu'on est allé?
L'intégral sport avec Christophe Lévy.
Les paroles d'aller les verts. Quand même, c'est ma première victoire depuis 3 mois.
Ah, c'est l'émotion.
D'ailleurs,
on envoie un t-shirt RMC à Bilal, hein, qu'on remercie.
Bien, Jean-Michel aussi.
Jean-Michel, on peut.
Pour une fois qu'il a gagné.
Alors, gros programme ce soir.
Ah, bah oui, évidemment, Lens-Lille, vous en avez parlé.
Gibo, il est à bloc.
Le Nord est en fusion et on va se régaler, évidemment, pour ce match qui pourrait décider du titre, de la place européenne. Bref, ça va être
un grand moment. Et puis on suivra également un match de top 14, là aussi en vue de la phase finale du championnat entre Castres et Lyon qui débute à 20h45. Lionel Charbonnier, Kevin Diaz et vous également au 32-16, supporters lensois, supporters lillois, venez nous faire part de votre folie avant ce match.
Grande soirée course au titre sur RMC jusqu'à minuit. Roten Régal est de retour vendredi prochain, 18h.
Bye, ciao.